Eh bien, nous allons voir une des plus grandes histoires de l'école du dimanche, Daniel chapitre 3, celle que l'on aime raconter. Nous allons en faire la lecture. Nous poursuivons donc une série dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel a pour objectif d'encourager le peuple juif qui est exilé à Babylone. Et ce livre nous encourage aussi en tant qu'Église, parce que nous sommes en quelque sorte un peuple exilé. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus a dit de ses disciples, ils ne sont pas du monde comme moi-même, je ne suis pas du monde. Et l'un des thèmes les plus importants de ce livre est celui du contrôle souverain que Dieu exerce majestueusement sur toutes les affaires de ce monde, sur tous les temps, sur toutes les nations et sur leurs dirigeants. En effet, le véritable héros de la Bible, le véritable héros du livre de Daniel, ça n'est pas Daniel, ça n'est pas non plus ses trois amis dans la fournaise, mais c'est Dieu lui-même, celui qui révèle, qui délivre, qui dirige parfaitement son peuple. Et je vous propose de faire la lecture donc chapitre 3 du livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées, à peu près 33 mètres sur 3 mètres de large. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toutes les langues. » Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement !» Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts. » Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant les regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi !» Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour cette parole qui nous donne récit d'un événement extraordinaire. Ce temps de Daniel, tous ces hommes fidèles qui t'ont aimé, qui t'ont adoré, plutôt que de sauver leur propre vie. Et Seigneur, nous te prions pour que leur histoire et puis la délivrance que toi tu opères eh bien, puisse s'imprimer sur nos cœurs, de sorte que l'on puisse être animé d'un tel courage, d'un cœur aussi résolu que le leur. Merci encore de nous bénir, Seigneur, et de nous encourager chacun par cette histoire, par Jésus-Christ. Amen. Paul Schneider, c'est mon neveu, mais avant d'être mon neveu, c'était un pasteur protestant et un martyr chrétien allemand. Et après que Hitler ait pris le pouvoir sur l'Allemagne, Paul Schneider se rend très vite compte que l'Église de Christ, allait inévitablement entrer en conflit avec le régime nazi qui mettait en question l'autorité de Dieu. Pour lui, il avait résolu dans son cœur de vivre d'une manière obéissante au Seigneur et exclusivement au Seigneur. Et à partir de 1934, il y a eu une grande tension entre le régime nazi et puis l'Église chrétienne dans laquelle il servait. Et il a été espionné, accusé, interrogé et jeté à plusieurs reprises en prison. En 1937, lors de la fête de l'Action de Grâce, pour les récoltes, il a été arrêté de nouveau. Et puis, il a passé 2 mois dans la prison de la Gestapo à Koblenz. Et puis, il a été transféré ensuite au camp de concentration de Buchenwald. Là, à Buchenwald, il aide, et puis il console, et puis il encourage les autres détenus. Jusqu'au jour où, le 20 avril 1938, pour l'anniversaire d'Adolf Hitler, tous les prisonniers sont rassemblés dans la cour et tous doivent enlever leur calot et puis faire le salut du drapeau à la croix gammée. Et Paul Schneider se tient là il n'enlève pas son calot, il ne salue pas le drapeau. Alors, on se saisit de lui, il est fouetté jusqu'au sang, et puis il est jeté dans un cachot. Depuis son cachot, il prêche par la fenêtre de sa cellule, encourage les autres détenus, il dénonce les SS. Les tortures, les supplices atroces, la privation de nourriture, de sommeil, ne l'empêchent pas d'être un messager de la parole de Dieu. Le 18 juillet 1939, il est définitivement réduit au silence par une injection létale. Voyez-vous la pression qui s'est exercée sur ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, s'exerce aussi sur ses enfants. Et le cas de ce Paul Schneider, pasteur allemand, dans une Allemagne nazie, eh bien, il a vécu cette même pression sur sa propre vie. Et d'une certaine manière, même si ce ne sera pas nécessairement dans cette mesure, nous allons connaître, nous aussi, chrétiens, eh bien, une pression qui va presser nos cœurs. Cette pression, l'Église persécutée la connaît, et les récits de persécution sont nombreux encore aujourd'hui. On a la revue Portes Ouvertes qui, chaque mois, publie les nouvelles du front. Et si vous lisez les nouvelles du front, vous allez vous rendre compte de combien de Shadrach, Meshach et Abednego d'aujourd'hui vivent fidèlement envers leur Seigneur. Mais même si ici, dans un pays de liberté, nous devons faire face à la pression, même si ce n'est pas la même pression, on a souvent quand même à faire face à la pression d'une famille, peut-être incroyante, peut-être faire face à une communauté qui est hostile à Jésus-Christ. Je pense à tous les musulmans qui se sont convertis. La pression est énorme pour eux. Nous devons faire face à la pression d'une culture qui est déviante. Une culture qui vante souvent le péché et méprise la justice. Nous devons faire face au qu'en dira-t-on de nos collègues. Nous devons faire face à la pression du matérialisme, à la pression de l'urgence, à la pression de la facilité. Et ces pressions, elles s'exercent sur nous et nous poussent parfois à compromettre la vérité, la pureté, l'intégrité de nos vies, à choisir de mauvaises priorités, le péché plutôt que l'obéissance, la sécurité plutôt que l'adoration du Dieu vivant et vrai. Et vous avez noté que cette pression, elle s'exerce la plupart du temps d'une façon inattendue. Eux, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fin du chapitre 2, il est dit qu'on leur remet la province. Ils sont de hauts fonctionnaires. On a l'impression qu'ils n'ont plus rien à craindre, eux. Et le verset suivant dit que Nebuchadnezzar, le roi, se fit une statue et qu'il leur demande de se prosterner. Voyez-vous, la pression, elle est subite la plupart du temps. Elle arrive dans nos vies sans prévenir. De sorte que la réaction que l'on va avoir au moment de la pression, on ne la contrôle pas. En fait, c'est ce qui sort de notre cœur. La pression s'exerce sur notre cœur et en pressant sur notre cœur, notre réaction apparaît. Et parfois, tristement, on reconnaît que la pression qui paraît... ce qui sort de notre cœur est triste. C'est de la lâcheté, c'est de l'égoïsme. Alors, comment, à l'instar de ces trois hommes, nous pouvons... comment est-ce qu'on peut réagir comme eux? Ou comment est-ce que l'on peut résister à cette pression? Je vous propose de regarder ce matin. Il faut se rappeler des réalités. Il faut se soumettre à Dieu et se souvenir de Jésus-Christ. Regardez tout d'abord, se rappeler des réalités. Si vous pensez que être soumis à la pression, sachez une chose, c'est que la pression qu'ont connue ces trois amis de Daniel était énorme. La première, c'est que la pression provient de l'autorité. Quand nous ressentons particulièrement la pression, lorsqu'elle émane d'une autorité, d'une puissance. Si c'est papa qui l'a dit, c'est plus fort que si c'est votre petite sœur. Si c'est le commandement qui émane de votre patron, hein, ou du patron de votre patron, eh ben ça a plus de pression que si c'est votre collègue qui le dit. Si c'est le maire de Toulouse ou le préfet qui vous demande une chose, la pression est plus importante que s'il s'agit de votre voisin. Dans le récit que Daniel nous fait de cette histoire, il mentionne 6 fois le roi Nebuchadnezzar dans les 7 premiers versets. Ici, il est en train de nous dire la pression s'exerce par le roi. C'est le roi lui-même qui ordonne la chose. C'est lui-même qui les convoque, qui les fait venir. C'est lui-même qui leur donne de se soumettre. Et puis la pression, elle vient également du conformisme. Vous avez remarqué dans les versets 2 et 3, il nous est parlé de tous au fond, c'est tous les fonctionnaires, hein, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juriconciles, les juges et tous les magistrats des provinces sont là. Ils sont tous réunis. Tous les fonctionnaires sont de sortie. Tout le cortège est réuni et se prosterne comme un seul homme au moment où sonne la trompette, etc., et tous les instruments de musique. C'est très fort, le conformisme. On n'aime pas particulièrement se distinguer. On n'aime pas particulièrement se mettre le reste du monde à dos. Pourquoi est-ce que les syndicats votent la reconduction de la grève à main levée? Parce que personne ne veut se retrouver tout seul en disant non, contre. Personne ne veut ça. Personne ne veut se distinguer comme ça. C'est très difficile. Vous ne voulez pas être le seul à ne pas faire grève. Dans votre classe, vous ne voulez pas être le seul à être contre l'avortement, ou contre l'euthanasie, ou contre la GPA, ou le mariage gay. C'est difficile de tenir ferme dans la pureté, de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Il y a une pression qui s'exerce de notre monde. Et dans un environnement où on se vante de ses conquêtes dans ce domaine, là où on banalise le péché, c'est très difficile de supporter cette pression et de dire non, moi je vivrai pur. Tout seul, dans ma classe, je vivrai pur. Et puis la pression, elle s'intensifie par la malice. Vous avez remarqué que si ces 3 hommes ne s'étaient pas prosternés, peut-être le roi ne les aurait pas vus. Je doute qu'ils soient venus là au premier rang en disant « Hello, no, on se prosterne pas ». Non, non, je pense qu'ils ont fait ça discrètement. Mais il y avait des hommes qui les détestaient et qui voulaient leur nuire. Des hommes jaloux qui voulaient leur place. On voit ça dans le verset 12. Il est dit, or, ils disent, or, il y a des juifs, et notez ce qu'il précise, à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, plutôt qu'à nous. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as faite. Et ils sont en train de leur dire, mais ces gars-là, s'ils eux ne s'étaient pas prosternés, ces hommes avaient vu ces jeunes juifs ne pas se prosterner et ils les ont dénoncés. Ils dénoncent d'une manière pernicieuse. Et puis la pression augmente encore par l'intimidation. Dans les versets 13 à 15, et puis dans la suite du passage, il nous est parlé de la fournaise ardente. À 7 reprises, la fournaise ardente, la fournaise ardente. Vous avez déjà approché vos mains d'un feu, hein, et puis vous sentez la chaleur qui vous gagne comme ça. Cette pression-là, sur vos vies. Vous savez que l'instant où vous allez tomber là-dedans, ça va être d'horribles souffrances. La perspective de brûler a tendance à motiver. Hein. C'est chaud, c'est le cas de le dire. La prochaine fois que vous ressentez la pression dans votre vie, pensez à Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, réfléchissons comment neutraliser cette pression. Voyez comment Daniel, l'auteur du récit, il raconte l'histoire avec une pointe de sarcasme. C'est quand même un petit peu... il met en évidence au fil de ce récit qui est dramatique, il met en évidence certaines choses. Au verset 1, il dit « Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or ». Et il met ces mêmes paroles-là dans la bouche du roi, au verset 15, lorsqu'il dit « Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite ». Voyez-vous, la théologie de Nebuchadnezzar est nulle ici. On n'adore pas une statue qu'on a fabriquée. On n'adore pas une statue. Mais c'est tellement absurde. Adorer ce qu'un homme a fait. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 44 de son livre, il dit ceci, je vous lis juste quelques versets, versets 16 et 17. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et il dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Vous voyez le ridicule de la chose? Il est en train de montrer, voilà, vous prenez un morceau de bois, vous taillez, et puis avec une partie, vous vous chauffez, vous faites votre cuisine, vous êtes tout content, et puis avec l'autre moitié, vous vous prosternez. Il dit, mais vous voyez le ridicule de la chose? Vous voyez c'est complètement stupide. Et puis, il répète plusieurs fois aussi, à 9 reprises dans notre passage, l'expression que la statue que Nebuchadnezzar a élevée. Daniel est en train de se moquer ici, je pense. Il est en train de dire, voilà la statue qu'il a élevée. Il a élevé une statue. Il nous pousse à imaginer le roi en train de bricoler, de faire une statue, puis ensuite, lever une grande statue de 30 mètres de haut. Et puis, il est en train de montrer que ça n'a aucun sens. Il se moque aussi probablement dans la description qu'il fait de la cérémonie. Vous avez remarqué les répétitions sans cesse. Quand on lit ce passage, il y a les répétitions de tous les participants. Et versets 2 et 3, tous les participants, tout le monde. Et on cite, dans les deux versets qui se suivent, on cite tous ces gens-là. C'est juste pour montrer, il n'y a rien. Puis vous avez remarqué aussi tout l'orchestre. Il présente l'orchestre avec toute la guitare, les trompettes et tous les instruments. Et à plusieurs reprises, verset 5, verset 7, verset 10, verset 15. Et du coup, ça devient le récit devient grotesque. Il est en train de montrer que c'est de la mise en scène. L'objet de l'adoration a si peu de valeur qu'il a fallu payer beaucoup de musiciens et de figurants pour que ça ait un peu de la gueule. C'est à la fois un procès qui est terrifiant, parce que l'enjeu est réel, et puis c'est à la fois une farce grotesque. Un dieu que l'on sait fabriquer, une statue que l'on a soi-même élevée, c'est vide. Et Daniel, il est en train, avec un certain humour, de nous aider à ne pas céder à la pression, à réaliser, c'est du vent, c'est vide, c'est creux. Comme le fait le prophète Jérémie encore dans le chapitre 10 de son livre. J'aime beaucoup comment il présente la chose. Jérémie 10, je lis, « Ainsi parle l'Éternel, verset 2, « N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt ?» La main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient rien faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Voilà celui que l'on doit craindre. Celui qui domine sur tous les hommes, c'est Dieu. Celui qui fait vivre et qui fait mourir, c'est Dieu. Vous pouvez dire amen si vous voulez. Celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer, c'est Dieu. C'est lui que nous devons craindre. Notre Dieu est vivant. On ne le fabrique pas, Il est notre Créateur. Il n'a pas besoin qu'on le porte. C'est lui qui nous porte. Notre Dieu, il parle. Il entend. Il agit. Il n'est pas branlant comme leurs idoles. Il soutient lui-même toute chose par sa parole puissante. Et il n'a pas besoin d'être nourri. C'est lui qui nourrit son peuple. Voyez-vous, pour échapper à la pression qui peut s'exercer sur vous, la pression des hommes, rappelez-vous la vérité, la réalité éternelle. C'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui nous nourrit. Ne vous prosternez pas, ne faites pas de compromis parce que c'est de l'argent, parce que c'est du sexe, parce que c'est je ne sais quoi. Ça, ce sont de fausses idoles qui ne sont pas capables de répondre à nos besoins. Dieu seul nous porte. Dieu seul nous soutient. Et puis, soumettez-vous à Dieu. Ils avaient de bonnes raisons, hein, ces trois hommes, de renoncer et d'accepter de se prosterner. Par exemple, ils auraient pu se dire qu'il valait mieux que, pour le peuple qui était exilé, hein, avoir des amis en haut lieu, même si ses amis se prosternaient devant une idole, plutôt que des amis fidèles à Dieu, mais qui soient morts. Ils pensaient peut-être, qui sait ce qui va advenir du peuple exilé? L'instant où on va être jeté dans la fournaise ardente, les autres là, ils vont prendre le pouvoir et puis ils vont persécuter encore les Juifs. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'on se prosterne simplement et puis qu'on garde la place et puis que nous, après, on arrive à jouer le rôle de tampon là entre le paganisme et puis notre foi? De plus, le roi, il veut, il leur accorde une seconde chance. Vous avez remarqué ça? On a l'impression, il leur dit, est-ce que c'est de propos délibérés? Vous êtes étrangers encore, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Et là, ils disent, non, on a bien compris, on a très très bien compris, mais on ne va pas se prosterner. Là, c'est le défi, hein. C'est le summum de l'ingratitude pour Nebuchadnezzar. On ne se prosternera pas devant ta statue. Ils auraient pu se dire que pour eux, ça ne signifie rien. Oh, c'est juste du bois, c'est de l'or, on va le faire quand même. C'est juste un truc que nous demande notre employeur. Il y a une vérité très importante ici pour nous. Ce qui détermine nos réactions face à la pression, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce que vous voulez au fond? Au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez? Au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous croyez? Si ce que vous voulez et cherchez, c'est votre confort, alors vous allez céder à la pression, c'est sûr. Pour satisfaire votre besoin de confort. Si vous croyez que Dieu ne s'intéresse pas à votre manière de vivre, vous allez vous prosterner. Mais si dans votre cœur, vous savez que Jésus est le Dieu vivant qui vous aime, que nul n'est comparable à lui, si vous croyez que ce qu'il dit est vrai et bon pour vous, si vous croyez qu'il a lui-même accepté la mort de la croix, pour que nous vivions éternellement, alors vous allez réagir comme Shadrach, Meshach et Abednego. Vous ferez confiance à votre Dieu, quoi qu'il vous en coûte. Regardez leur réaction, versets 17 et 18, il est en train il dit, il peut le faire s'il veut le faire. Il peut nous délivrer, il n'y a aucun problème avec notre Dieu. Il a la puissance, il a la capacité de nous délivrer, ça ne fait pas un pli. La question c'est, est-ce qu'il va le faire? Verset 18, hein, même s'ils sont certains de sa capacité, ils ne sont pas sûrs de son plan. Et là, on a besoin de reconnaître deux volontés chez Dieu, deux aspects essentiels de la volonté de Dieu. Il y a une volonté qui est révélée, et puis ça c'est une volonté qui est morale, que nous pouvons faire ou que nous pouvons ne pas faire, et puis il y a une volonté qui est secrète, une volonté qu'on appelle décrétive, que Dieu a décrétée et qui va s'accomplir. Et que nous ne pouvons pas changer. Par exemple, vous avez déjà entendu des gens qui vous ont dit « Bon, on se voit dimanche au culte, Dieu voulant. » Quand les gens me disent ça, « Dieu voulant, hein. Dieu le veut, c'est le quatrième commandement. Dieu le veut. » Mais à la fois, ils le disent en disant « C'est vrai, il y a une incertitude quand même qui plane. Personne d'entre nous ne peut dire s'il vivra demain. » Et d'une certaine manière, effectivement, on devrait pouvoir, et Dieu nous apprend à dire « si Dieu veut ». Mais vous comprenez qu'il y a cette première volonté, on peut y obéir ou on peut ne pas y obéir. Mais la deuxième, on ne peut pas la changer, elle va s'accomplir. Vous serez là, ou vous serez en vie, ou vous serez mort, et vous ne pouvez rien y changer. D'accord ? Et donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on cherche à accomplir la volonté première, cette volonté révélée, cette volonté morale de Dieu. C'est-à-dire, ses commandements, au fond. Or, ici, la volonté révélée de Dieu, elle est clairement exprimée dans les deux premiers commandements d'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Et donc là, il est question d'obéir. On doit se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté révélée de Dieu. Pour la volonté décrétive et secrète, on est de toute manière soumis. Ça ne dépend pas de nous. Et ces trois jeunes Hébreux, ils n'ont pas l'intention d'enfreindre ces commandements. Nous ne savons pas ce que notre Dieu veut faire dans sa volonté secrète. Tu vas peut-être nous carboniser, mais ça ne fait rien. Ce que tu dois comprendre, c'est que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas ton image. Ils ne sont pas certains, au fond, des intentions de Dieu, mais ils sont certains de sa volonté. Et le point crucial, si vous devez retenir une chose de tout ça, le point crucial pour eux, ça n'est pas la délivrance, mais c'est l'obéissance. Le point crucial, ça n'est pas la délivrance, mais c'est l'obéissance. La question qui est en jeu, au fond, ici, dans ce passage, c'est celle de notre adoration. Le mot revient sans cesse dans ce chapitre. Et son contraire, servir d'autres dieux, revient également. La question n'est pas leur sécurité, mais leur adoration. La question que je vous pose, c'est qui adorez-vous ? Voilà l'enjeu. Qui adorez-vous ? Oh, je sais que si vous êtes là ce matin, c'est vous adorez Dieu, Jésus-Christ. Mais nos cœurs sont des fabriques d'idoles, vous savez. Si vous aimez l'argent plus que Dieu, alors vous allez succomber à un pot de vin, c'est sûr, ou à une tentation de prendre. Si vous aimez le sexe plus que Dieu, vous succomberez à un adultère ou à la débauche. Si vous vous aimez plus que Dieu, vous succomberez à la flatterie. Eux, ils adorent Dieu. Et ils sont résolus de lui obéir. Leur fidélité ne dépend pas d'une possibilité d'échapper à la fournaise. Ils choisissent la fidélité parce que c'est la bonne attitude à adopter. Voilà, c'est tout. Même si elle doit leur coûter la vie. Et leur adoration s'exprime vraiment dans une foi qui est vraiment équilibrée. Je vous invite à vous souvenir de ça. Réfléchissez sur ces versets 17 et 18. Vous avez remarqué, leur foi, elle connaît la puissance de Dieu. Au verset 17, ils disent, notre Dieu peut nous délivrer. Il peut le faire. Ça ne fait aucun doute. Dieu a cette capacité, a cette puissance de délivrer. Il peut faire ce qu'il veut. De la même manière qu'il peut guérir, qu'il peut vous rendre riche, qu'il peut, j'en sais rien. Voilà. Il peut le faire. Ça ne pose aucun problème pour lui. Mais la vraie foi, elle préserve la liberté de Dieu. Au verset 18, ils disent « Sinon, si Dieu ne le fait pas, nous n'adorerons pas tes dieux. » Ça ne change rien pour nous. Dieu, il est libre d'agir comme il lui plaît. Il est libre de vous apporter la délivrance dont vous avez besoin à l'instant, simplement. Il a la puissance, il a la capacité de le faire. La question c'est, et sinon? Et s'il ne le fait pas? Est-ce que ça va changer quelque chose à votre comportement? Pensez à un sujet de prière qui vous tient particulièrement à cœur. Et posez cette question. Il a la puissance de le faire. Mais s'il ne le fait pas, est-ce que ça change quelque chose à mon comportement? La foi, elle porte la vérité de Dieu. Nous ne servirons pas d'autres dieux. Voyez-vous, certains confondent la foi dans la foi et la foi en Dieu. Ils pensent que s'ils y croient vraiment, Dieu va le faire. Ils réécriraient le passage ainsi en disant « Nous allons appeler la délivrance de Dieu et nous allons lier le feu. » Mais la foi biblique ne fait pas ça. Elle ne prédit pas les voies de Dieu, mais elle se tient sur la parole de Dieu. Seigneur, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, je te serai fidèle. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, ça ne change rien à ce que tu es. Tu es un Dieu plein de bonté. Tu es un Dieu tout puissant. Je te connais comme tel et je te fais confiance pour ce que tu vas décréter. La foi obéit à la vérité, elle ne manipule pas Dieu. Et le véritable miracle de Daniel chapitre 3 a déjà eu lieu. Le fait que trois hommes n'adorent pas dans l'état totalitaire de Nebuchadnezzar, c'est déjà un miracle. Le fait qu'ils échappent au feu, aux effets du feu, c'est pas un plus grand miracle. Supposez que la fournaise les ait entièrement consumés. Le miracle aurait eu lieu de toute manière. Ils ne se seraient pas compromis. Ils auraient obéi. Leur foi n'aurait pas été moins grande. Quand la pression se fait ressentir, soumettez-vous à Dieu. Placez-vous entier, tout entier entre ses mains et adorez-le lui seul. Et puis enfin, souvenez-vous de Jésus-Christ. Dans les versets 19 à 30, on voit Nebuchadnezzar qui est sur le point de recevoir la réponse à sa question. Et il avait posé la question à la fin du verset 15. « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et là, il semble que la situation se soit vraiment empirée. Là, ils sont tombés dans la fournaise ardente. Mais maintenant, c'est le choc pour Nebuchadnezzar, versets 24 et 25. Il est en train de regarder et c'est lui qui était effrayé. Il se lève précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent, « Ben oui, bien sûr. » Il reprit, il dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien et ils marchent au milieu du feu. Et ils n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Quel est ce dernier invité? Nebuchadnezzar va l'appeler son ange au verset 28. Au verset 25, il dit « c'est un des fils des dieux ». Mais bon, Nebuchadnezzar, c'est un roi encore qui est païen. Il va se convertir le chapitre 4. Il est polythéiste. C'est peut-être pas le mieux placé pour nous dire qui est ce quatrième personnage, mais c'est probablement l'ange de l'Éternel, une apparition de Jésus-Christ avant son incarnation. C'est en tout cas ce que je crois avec beaucoup d'autres commentateurs. Néanmoins, le quatrième homme ici est le compagnon et le sauveur des trois serviteurs de Dieu. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? c'est Jésus. C'est un exemple de la manière dont Christ peut délivrer son peuple. Mais ce n'est pas la garantie d'une délivrance dans tous les cas. Ce que nous devons retenir, néanmoins, ici, c'est que Christ ne les a pas gardés d'être jetés dans la fournaise. Il les a gardés dans la fournaise. Il les a rencontrés dans la fournaise. Ça veut dire que Dieu ne nous épargne pas toutes sortes de détresses. Dieu ne nous épargne pas toutes sortes de dangers. Mais dans notre solitude, dans notre détresse, dans notre besoin, le quatrième personnage vient à notre rencontre et marche avec nous, Jésus-Christ. Il a l'art de nous exposer à la détresse, et il a l'art aussi de nous garder. Vous devez vous souvenir de cela quand vient la pression. Vous ne goûterez jamais autant à la présence de Christ que dans ces moments de tension, dans les moments de pression. En Ésaïe chapitre 43, il dit « Si tu dois marcher dans les eaux, elles ne te submergeront pas. Si tu dois marcher dans le feu, il ne te brûlera pas. » Jésus ne vous laissera jamais vivre la fournaise sans lui. Ça, c'est une promesse qu'il fait. Jésus ne vous fera jamais vivre la fournaise sans lui. Vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. Il connaît cette pression. Lui-même a connu cette tension. Le diable lui a promis des royaumes de la terre et la gloire s'il se prosternait et l'adorait. Et il a répondu en citant le premier commandement, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable y proposait à Jésus, au fond, une autre voie, bien plus facile pour régner sans connaître l'humiliation de la croix. La pression était énorme, mais il connaissait les réalités. Il obéissait au Père. Et il est venu avant tout pour régner sur nos cœurs et pour porter par sa mort sur la croix, la peine de nos péchés. Il est resté lui seul parfaitement obéissant. Et par son obéissance, il nous a acquis un plein pardon pour toutes nos désobéissances. Et c'est pour cela que lui seul est entièrement digne de recevoir toute notre adoration. Jésus a connu lui aussi la fournaise de la croix pour que nous n'ayons pas à connaître la fournaise de l'enfer. Ce jour-là, toute la foule a crié « Crucifie-le !» Il n'est pas resté un seul de ses amis. La pression était telle qu'ils ont trahi. La pression était telle qu'ils ont pris la fuite. Lui seul est resté obéissant parfaitement. Et sa mort, elle nous a acquis un plein pardon. Un pardon pour tous nos échecs. Un pardon pour toutes les fois où on s'est prosterné, où lamentablement on s'est vautré, lamentablement on a fléchi les genoux devant ce que l'on déteste, devant ce qui n'est pas Dieu, ce qui ne peut pas nous apporter la consolation, le secours, la justice, le salut. Et on s'est quand même prosterné devant ces choses-là. Et Jésus, lui, l'a fait. Il a subi la croix, précisément. Il a subi la fournaise ardente, précisément pour qu'on soit pardonné de tout cela. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment l'adorer. Et c'est dans la mesure où on l'adore que l'on va devenir ferme. Voyez-vous, comme à l'époque de Daniel, notre génération a besoin de faire preuve du courage de Shadrach, de Meshach et d'Abednego face à la pression du monde. Ce courage, c'est une réponse de nos cœurs lorsque nous adorons Jésus-Christ. C'est un courage qui est empreint de respect, de fermeté, un courage qui croit joyeusement que Dieu peut intervenir, mais qu'il est prêt à souffrir plutôt que de sacrifier une obéissance sincère. C'est lorsque Jésus est le plus précieux que tout, plus précieux à nos yeux que tout, eh bien qu'il remplit nos cœurs et qu'il nous donne un tel courage. Jésus devient tellement précieux lorsqu'on considère son œuvre à la croix. Vous savez, quelle est la garantie? Qu'est-ce qui peut nous préserver de nous vautrer comme cela, de nous prosterner quand la pression se fait? Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui va nous préserver de nous compromettre, de pourrir le témoignage qu'on s'efforce de donner? Quand cette pression elle arrive soudainement, qu'est-ce qui va se passer? La seule garantie, c'est d'avoir rempli nos cœurs. La seule garantie, c'est d'avoir rempli nos cœurs de Jésus-Christ. Si mon cœur est rempli de Christ, l'instant où la pression va s'exercer, la réaction sera digne de Jésus-Christ. Si j'ai rempli mon cœur d'autres choses, et que je chéris toutes sortes de choses dans mon cœur, alors l'instant où la pression va s'exercer sur mon cœur, ce qui va jaillir de mon cœur, ce seront des idoles, ce seront des faux dieux vers lesquels je vais me prosterner. Alors le seul secours que l'on ait, c'est vraiment de nous approcher de Dieu et de contempler Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ dans la fournaise, et de reconnaître que lui seul efface toutes nos fautes, que lui seul est entièrement digne de recevoir toute l'honneur, la gloire, la majesté, que lui seul est le Tout-Puissant, que lui seul peut satisfaire notre cœur tout entier, que lui seul prendra soin de nous, quelles que soient les circonstances. Et quand on a cette pensée-là, alors on peut juste l'adorer et remplir nos cœurs de Christ. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour ta parole. Elle est la vérité. Merci pour cette merveilleuse histoire, Seigneur. Merci de ce que tu as été capable, Seigneur, de garder le cœur de Shadrach, Meshach et Abednego, comme tu es capable de garder aussi le nôtre, Seigneur, l'instant où nous portons nos regards sur toi, lorsque nous décidons, Seigneur, de comprendre quelles sont les réalités véritables, Seigneur, celles qui dirigent, Seigneur, l'univers tout entier. C'est toi seul, le Dieu, qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire. Seigneur, remplis nos cœurs d'obéissance, de désir de te suivre, de te plaire. Remplis nos cœurs, Seigneur, de la perspective de Jésus-Christ. Remplis nos cœurs de l'œuvre de la croix, Seigneur, de sorte que, en la méditant, en te louant, Seigneur, pour cela, eh bien, nos cœurs soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Christ, de sorte que, sous pression, ce soit encore Christ qui soit manifesté. Nous te le demandons. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, parce qu'on sait que on a besoin de toi, jour après jour, pour faire face à la pression qui s'exerce sur nos cœurs. Amen.